prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. Aujourd'hui, cap à l'ouest, vers le Brésil, vers Brasilia, où a choisi de s'installer il y a un peu plus de 20 ans maintenant notre invité du jour, Daniel Briand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pâtissier, chocolatier, français d'origine. Votre réputation, vous le savez, dépasse les frontières et les océans quand même.
Ouais.
On est d'accord.
Ouais.
Mais en tout cas, la personne qui m'a parlé de vous la première fois, je peux vous assurer qu'il y avait mais de la gourmandise dans ses prunelles et je n'ose parler d'étoiles et pourtant c'est bien ça. Donc votre réputation est faite.
Ça c'est un des plaisirs de ma vie, ça, c'est que ce que j'ai fait, je suis reconnu et ça fait vivre tous les jours bien. On se réveille en disant putain, qu'est-ce qu'on a de la chance.
Voilà. Parce que vous offrez quand même Brasilia une terre d'asile.
Ouais,
à pas mal de monde.
Bien sûr.
Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que votre café, alors j'ai lu à droite à gauche des articles qui parlaient de votre café, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, le café Daniel Briand. C'était un peu Paris à Brasilia. Un café parisien tropical, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu... À ce niveau-là, c'était plutôt mon épouse qui est... quand on s'est connus ici, en France, et qu'on a été au Brésil, j'ai envie de monter un café parisien à Brasilia. Pour moi, ça ne voulait rien dire du tout. Et elle le savait. Et c'est ce qui s'est passé, en fait.
Mais justement, emmenez-nous un petit peu, parce que nous on est à Issy-les-Moulineaux, dans les studios de RFI, et on aimerait bien fermer les yeux, vous écouter, et nous raconter un petit peu. Déjà, où est-ce qu'on se trouve à Brasilia?
Alors, on se trouve près du centre, pas très loin. Il n'y a pas vraiment de centre, c'est le milieu de Brasilia, c'est un avion, hein, c'est avec les ailes, le pouvoir et les militaires derrière. Voilà. Et donc, on est sur le côté gauche, l'aile gauche, on va dire, hein, et à 500 mètres du centre, hein, où les ailes et le corps de l'avion se rencontrent. Ça, c'est là. Alors, le tropical, premièrement, c'est le Paris, parce que c'est dans les vitrines, on a l'impression d'être à Paris.
Hein. Donc déjà, on passe la porte. Est-ce que avant même de passer la porte de votre café, on est dans quelle ambiance? Il y a des arbres, il y a une terrasse, pas de terrasse, une porte en bois.
Alors, déjà, quand on vient au café, on ne passe pas forcément la porte, parce qu'il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, 95% de mon espace pour s'asseoir, c'est à l'extérieur. Une partie sous les arbres, une partie sous une verrière. Donc, le côté parisien de cet endroit, c'est ce qu'on retrouve sur les tables, qui est vraiment français, etc. Et le tropical, c'est parce qu'on est dans les arbres, il y a des plantes grimpantes partout, il y a des fleurs, il y a... Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous imaginez donc une verrière, où il y a une vingtaine de tables, et puis un jardin où on arrive à mettre 50 tables, et s'il pleut, bah, faut les enlever, parce que y a pas de toit. S'il tombe des feuilles, bah, il tombe des feuilles, mais c'est, comme Brasilia, c'est un endroit super où il doit pleuvoir 30 jours par an, en gros, c'est magnifique,
quoi. C'est pas une grande préoccupation que la pluie.
Non, c'est un sport, dans le sens où les périodes où il pleut un peu, c'est on met les tables, il va pleuvoir, on les enlève, tiens, il fait beau, on les remet, etc. Ça arrive aussi. Mais la plus grande partie du temps, non, hein, c'est pas comme ça. Alors après, on va rentrer dans l'espace, et là, c'est un... Je dis toujours ça, mais c'est vrai, c'est mon épouse, brésilienne, qui est photographe, donc un œil terrible, de une vision beaucoup plus formée que la mienne.
Et qui mise en valeur, de précision,
bien sûr,
du
et qui
détail.
A mis Paris en... qui a mis un café parisien en valeur. Quand on a eu, après quelques années, la possibilité de faire vraiment ce qu'on voulait, avoir l'espace qu'il fallait, on a acheté, je sais, des bouquins ici, les 100 vitrines de Paris anciennes, etc. Et donc, on est parti de ça.
Et donc, derrière ces vitrines, est-ce qu'une fois on est dans la pâtisserie?
Oui.
Où sont les gâteaux?
Alors les gâteaux, c'est pratique en fait, parce que les vitrines des gâteaux sont sur le mur extérieur, on va dire. Donc par l'intérieur, on met les gâteaux dans la vitrine et par l'extérieur, on le regarde. Donc c'est pratique parce que les gens, s'ils veulent voir les gâteaux, des fois ils rentrent dedans, ben non, on va pas ouvrir parce que ça va perdre le froid, on les amène à l'extérieur.
Et comme ça, on peut choisir.
Voilà.
Pâtisserie française.
Total. Je dirais vraiment la traditionnelle, la plus simple. J'admire tout ce qui est fait en pâtisserie ici. Maintenant, c'est de l'art souvent, c'est des techniques. Je pense que c'est pas évident d'adapter ça là-bas. Et puis il y a pas encore besoin, je pense. Hein. C'est-à-dire que si on fait un bon éclair, super bonne qualité.
Donc pâte à choux garnie
de crème chocolat, bonne crème chocolat. Ouais, c'est ça. Ou de la vanille, de la vraie aussi. Et si on fait un bon millefeuille croquant avec le feuilletage inversé, il y a pas mieux.
On reparlera de ce feuilletage.
Oui, bien sûr.
Quand vous êtes arrivé à Brasilia, la pâtisserie avait quel visage ?
Terrible. Enfin, par rapport à mes critères à moi, entre autres, c'était, il y avait rien, quoi. C'était bon, c'est la pâtisserie portugaise d'influence, Brésil, beaucoup de sucre, des gâteaux très hauts, de comme les gâteaux allemands, etc.
Donc un peu dense, beaucoup de chocolat, de crème, de
biscuits, machin, sucre, etc. Donc en fait, quand je suis allé là-bas, je suis allé pour un an en année sabbatique. Donc là-bas, j'ai fallu je vive un peu, donc j'ai donné des cours, sans parler portugais, mais les mains, ça sert.
Ça suffit, il n'y a pas besoin de vocabulaire.
Non, il n'y a pas besoin de vocabulaire. Et donc j'ai donné des cours, et à un moment, on m'a appelé dans une croissanterie, ce qu'ils appelaient une croissanterie là-bas, c'est-à-dire un croissant fait de pâtes, ça avait la forme du croissant, ça c'est sûr. Mais le goût, rien du tout, quoi.
Et ça avait quel goût, ce croissant-là?
Bah, c'est un goût de pâte, quoi. Pâte mélangée avec du beurre, mais pas beaucoup. C'était même pas du beurre, la margarine, enfin, des trucs comme ça. Et donc, quand on m'a appelé là, on m'a dit, bah tiens, apprends à mes employés à faire les croissants. Et donc, c'était une révélation, parce que au bout de 3 jours, j'ai réussi à faire un bon croissant. Et je me suis dit, mais c'est pas le problème des ingrédients, c'est le problème de la façon de faire.
Oui, c'est ça, parce que quand vous le dites, vous savez, vous êtes pâtissier depuis des années et des années, donc vous savez faire un croissant, la complexité, c'était vraiment adapter le produit croissant, donc les matières premières dont vous venez de parler, peut-être la température ambiante aussi, ou ça n'a rien à voir, ou...
C'était vraiment la technique. Au départ, c'était vraiment la technique. Savoir quand est-ce qu'on utilise le beurre, bien froid, pas froid, etc., la densité de la pâte, parce que c'est ça, le croissant, on va pas rentrer dans les techniques, mais si la pâte qui est faite est un peu molle, donc il faut mettre un beurre un peu plus mou, si c'est un peu plus dur, il faut mettre un peu plus dur, donc c'est c'est une profession, hein, c'est notre culture en plus.
Tout
hein.
Un savoir-faire.
Bien sûr, un grand savoir-faire. Donc quand j'ai vu ça, ça a été le déclic vraiment.
Vous vous êtes dit, pas de problème pour la matière première, j'en trouverai.
Voilà, c'est ça. Non, et puis bon, il y a des petites anecdotes comme ça, je sais que dans un type matière première, j'utilisais du beurre de cacao, et on ne trouvait pas de beurre de cacao au Brésil.
Pays producteur de cacao pourtant.
Eh ben oui, ça allait où ? Ça allait dans les industries pharmaceutiques pour faire les rouges à lèvres, tout ça. Donc j'ai pris cette filière-là et j'ai trouvé mon beurre de cacao à travers ça. Fallait tout inventer, mais c'est ça qui est intéressant, c'est bien sûr.
Ouais, mais c'est ça qui est fascinant.
Bien sûr. Ah ouais, non, ça c'est toute cette première partie. Je sais que j'ai traîné en banlieue de Brasilia. J'ai jamais traîné autant en banlieue de Brasilia que quand je parlais pas le portugais, quand je me repérais pas du tout parce que j'allais chercher du matériel, des produits, enfin bref.
Est-ce que vous avez trouvé du coup peut-être des farines aussi ? Vous êtes tout de suite parti sur de la farine de blé, vous avez essayé de vous rapprocher au plus près de la recette française ou pas ?
Oui, alors oui, au niveau de farine, il n'y a pas photo, quoi. Il faut une farine de blé. Les croissants, on voit pas de croissant avec une autre farine que la farine de blé. Ça doit exister, mais enfin bon, je connais pas et ça doit pas être évident à faire. Donc c'est la farine de blé. Elle était pas très bonne, elle est pas fidèle. En plus, hein. Donc c'est là où intervient la profession, l'expérience pour adapter suivant la qualité de la farine.
Le croissant, il a quand même un rôle majeur dans votre vie, le croissant.
Oui, oui, oui.
Donc ce croissant-là, il est goûté, il est apprécié.
Oui.
Si je dis rôle majeur dans votre vie, c'est parce que j'ai de la chance, je vous ai parlé un petit peu avant. Pourquoi est-ce que je dis ça, Daniel Briand ?
Oh là là, vous avez du temps.
On est là pour ça.
Bon, parce que c'était comme ça. Moi, j'étais 5 ans pâtissier, j'ai arrêté, j'ai fait plein de boulots, etc., différents. Hein. J'ai voyagé beaucoup aussi en Afrique. Et donc, à un moment, quand je suis revenu d'Afrique, je faisais sondage d'opinion, des petits boulots, de l'artisanat, tout ça et ça. Et un jour, habitant à la campagne, j'ai reçu un ami qui était avec des enfants de banlieue parisienne en randonnée cheval. Donc moi j'avais une ferme, donc les chevaux, on a mis les chevaux à l'écurie, ils ont été dormir dans le grenier, on s'est bien marré, et puis je me suis dit bon, je vais leur faire plaisir, donc j'ai fait des croissants. Et donc, le petit déjeuner le matin, quand c'est réveillé, ah, les croissants tout chauds sortant de mon petit four, hein, tout ça. Et donc, ça a été le pur bonheur. Et ce jour-là est apparu le responsable de tout centre de loisirs d'Orly, pour...
Donc, Orly au sud de Paris.
Orly sud, ouais, Orly ville, hein. Et donc, il m'a dit, mais pourquoi tu donnes pas des cours avec ça? Tu sais faire tout ça. Et ça a été le déclic. Boum. Donc moi j'ai passé à peu près, je sais pas, 2-3 mois à m'organiser pour ça. Et c'est sans doute très très dur maintenant. J'ai passé une journée à chercher du travail. Et en une journée, j'ai vu 3 endroits. Il y en a un, je suis resté 15 ans et d'autres 10 ans. Donc ça a été vraiment...
Vous êtes un fidèle.
Ouais. Oui, je pense, ouais. Oui, c'est sûr.
Mais un fidèle aventurier quand
voilà.
même. Vous
oui,
avez
oui.
brossé trop vite là votre voyage, parce qu'il faut peut-être revenir sur Daniel Briand aux origines, on va dire. Je crois que vous avez grandi avec un boulanger,
votre
père.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et c'est lui, en fait, vous vous êtes dit... comment ça s'est passé? Vous vous êtes dit, je serai boulanger, vous n'êtes pas posé la question?
Non. Ça s'est passé... c'est à 15 ans, pour une histoire comme ça, qui n'est pas forcément intéressante. J'ai à 15 ans, je redoublais ma troisième, alors que je l'avais bien faite, dans une école public, parce que j'étais dans une école privée, où je faisais autre chose. À ce moment-là, j'ai décidé, non, je vais devenir pâtissier. Et puis, mon père me faisait travailler, donc j'avais un peu le goût de ça. Et le jour où j'ai décidé ça, j'ai gagné mon passeport pour la liberté pour ma vie, et j'en suis très content.
Donc, vous avez travaillé comme pâtissier?
Comme apprenti, après ouvrier sur Paris, pendant 3-4 ans. J'ai quitté ce métier, parce que c'est un métier où les rapports sociaux entre les personnes, c'est très dur. Dans les années 70, en plus, on n'avait pas trop de problèmes de dire on s'en va et on fait autre chose.
En termes d'emploi, on pouvait trouver plus facilement du travail.
Oui, bien sûr. Oui, on n'était pas content à l'endroit. Le lendemain, on trouvait si on voulait. Mais c'était pas un bon esprit. Je sais que ça a changé, mais c'était pas un bon esprit dur, quoi. Enfin, ça me convenait pas, en tout cas. Donc, j'ai fait plein de choses et on est arrivé à ce jour où, paf, on m'a dit, mais pourquoi tu donnes pas des cours? Et donc, c'est comme ça que je suis revenu dans la pâtisserie et dans le croissant. Alors après, le croissant, ça a continué. Ça a été l'épisode qu'on a parlé à Brasilia où il y a eu ce déclic. Et avant ce déclic, en fait, il faut remettre les choses en ordre. J'ai rencontré mon épouse qui faisait un doctorat en photojournalisme à Paris, et qui, pour se détendre, pour apprécier un peu la culture française, est venue faire un stage de pâtisserie de fin de semaine. Et qu'est-ce que je faisais le stage de fin de semaine?
Des croissants.
Des croissants. Et ben, elle n'a pas appris.
Non, elle a été plus maline que cela. Oui. Elle vous a embarqué dans ses bagages.
Oui.
Juste, je voudrais savoir un petit peu, quand vous êtes parti en Afrique, où est-ce que vous êtes parti en Afrique? Vous êtes parti comment? Et avec donc vous étiez pâtissier, donc avec votre profession de pâtissier sous le bras.
Ouais. C'était pas trop mon problème à ce moment-là. Je suis parti avec mon sac à dos. Et donc, j'ai traversé l'Espagne, le Maroc, après j'ai traversé le désert, je suis arrivé au Sahara espagnol, qui n'existe plus maintenant, et donc Mauritanie et Sénégal. Et donc, en arrivant au Sénégal, je suis parti avec très peu d'argent, mais j'en avais encore moins. Et donc, il fallait que je trouve du travail. En fait, j'ai trouvé du travail sur un bateau, comme aide cuisinier.
D'accord, mais toujours dans la profession, dans les
toujours
professions
dans
de
Toujours dans la profession, etc. Donc, je suis resté quelques mois. Ensuite, je me suis débarqué au Bénin, hein, c'était le Dahomey à l'époque. Et donc, après, j'ai encore voyagé encore 6 mois avec pas beaucoup d'argent. Et j'ai trouvé un travail dans le désert, au nord de Tombouctou, au Mali. Une entreprise qui faisait de la prospection du sol pour savoir s'il y avait du pétrole. Alors, c'était complètement perdu en plein désert. Et moi, on m'a nommé responsable des cuisines. Donc, fallait faire du corneau de bœuf avec 10 recettes différentes, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais bon, donc j'étais responsable. Donc, ce métier m'a aidé pour ça, hein, toujours, quoi. Et puis donc, quand je suis revenu, j'ai fait effectivement en France, 3 ans après, j'ai fait plein de boulot. Et puis voilà, le déclic du croissant et des enfants.
Voilà.
Goût du monde, Clémence de Navy.
Koyene fasoe, mbale moi lou tombok tu yene fasoe.
Tombouctou Faso de Fatoumata Diawara, bande originale du film Timbuktu d'Abderrahmane Sissoko. Nous sommes avec Daniel Briand, pâtissier, cuisinier du désert à un moment, donc dans le désert près de Tombouctou. Quelles images est-ce que vous gardez de ce désert-là dans lequel on peut plus...
Dans lequel on peut plus aller. Bon, premièrement, je suis arrivé à Tombouctou après avoir entendu à la radio... un mois avant que c'est une entreprise qui s'installait, enfin qui partait à faire la prospection dans le désert, donc avait besoin de gens. Donc j'ai dit je vais là-bas et je vais avoir du boulot. Et je suis allé là-bas, j'ai eu du boulot. Je me souviens quand on m'a embauché, je suis parti la nuit avec un type de l'entreprise et on a roulé toute la nuit avec pas de route. Il y avait des traces de pneus, mais c'est tout, quoi. Il m'a demandé entre autres de conduire, c'était pas mal non plus. Mais bon, aucun problème. Et donc on est arrivé à un camp qui était à peu près à on va dire, enfin une nuit de voyage, quoi. Je sais qu'on est arrivé le matin. Et comment ça se fonctionnait, c'est-à-dire que l'entreprise avait une ligne droite de 1000 kilomètres. Tout droit. Ils s'occupaient pas où il y avait les pluies, où il y avait le terrain, etc. C'est sûr qu'à certains endroits où c'était très montagneux, ils faisaient pas, mais tous les 100 mètres faisaient un trou, mettaient une dynamite et explosaient la dynamite pour étudier le sol. C'était, à ce moment-là, on faisait comme ça. Donc, moi, dans le camp de base, eh ben, on était à un endroit. Et donc, quand les géomètres qui étaient devant et ceux qui faisaient explosent la dynamite étaient derrière, se rapprochait trop, on avançait devant, mais c'était toujours en ligne droite, quoi. Et on installait un camp.
Donc c'était un campement nomade en permanence.
Nomade, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Avec et on était 100 personnes à peu près, quoi.
D'accord, donc important.
Et des fois, on est arrivé à des endroits où il fallait 2-3 jours pour avoir l'eau, hein, même pas les aliments. Hein. Et il est arrivé même une fois où on est obligé de quitter le camp pour aller à Arawan, qui est à, si je me trompe pas, ça doit être à 800 kilomètres au nord de Tombouctou, pour aller au puits parce que les camions étaient en panne, etc., etc. Donc c'était génial. Moi, j'ai vécu des moments super là. Et le paysage.
Et vous avez rencontré des Maliens?
Bien sûr.
Ouais. Est-ce que ça a été des découvertes gustatives aussi, des découvertes en termes humaines, j'imagine, évidemment.
Pas trop à ce moment-là. Non, je dirais pas seulement les Maliens, mais l'Afrique. Mais c'est vrai que le Mali, c'était un petit peu différent de la Côte d'Ivoire, par exemple. Le Malien, à l'époque, hein, on va faire pas des généralités, quelqu'un de très fier de sa culture, etc. L'Ivoirien, à l'époque, je sais que ça a aussi changé. C'était plus tout ce qui était blanc, c'était beau, c'était le patron, donne-moi du travail, etc. Il y avait plus une relation de soumission. Alors que le Mali, non, fierté, les Touaregs, etc. Donc c'est
même le désert.
Oui, et le désert et notre culture, etc. Et oui, j'ai eu l'occasion d'aller dans des campements comme ça, en pas loin d'où on passait, etc. C'est une histoire qui m'est beaucoup restée. Et donc je suis parti. Il m'est arrivé une petite anecdote quand même en partant, c'est que je gagnais bien ma vie en plus. Et selon le gouvernement malien, je gagnais le salaire d'un ministre.
Un peu trop bien votre vie.
Donc au bout de 9 mois où je suis resté là-bas, on m'a dit bah oui c'est bien, mais alors j'avais encore 3 mois de salaire à recevoir. J'ai dit c'est bien, mais vous devez des impôts là. Ce qui fait que je suis parti avec presque rien d'argent. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. Puis je suis débrouillé après.
Et après le Mali, c'était retour en France?
Non, du tout. Après le Mali, je suis descendu en Côte d'Ivoire. Je suis resté 6-7 mois à voyager, etc. Et là, j'ai retrouvé un autre travail. Alors là, c'était pas par rapport à la cuisine. C'était au nord de la Côte d'Ivoire, à Ferkessédougou. C'était l'installation d'une raffinerie de sucre. Donc, dans les plantations. Et là, j'étais chef d'équipe parce que je parlais l'anglais assez couramment.
D'accord. Voilà. Incroyable.
Ouais, non, c'est bien. Ça forge la, ça fait du bien à la tête. Hein. Et je disais encore ce matin au taxi là qui m'a amené, si j'ai été au Brésil, c'est aussi par rapport à ça, parce que quand on voyage comme ça, on découvre que nos références à nous, c'est une, mais il y en a d'autres et elles sont aussi intéressantes.
Qu'on est tout petit en fait.
Voilà, exactement.
Et ça fait du bien d'être tout petit de temps en temps.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Donc, vous êtes tombé amoureux, on a bien compris, de votre femme qui a eu la finesse et l'intelligence de, plutôt que d'apprendre à faire des croissants, vous emmener avec elle à Brasilia. Après avoir beaucoup travaillé avec des enfants, qu'est-ce que vous a apporté ce travail avec les enfants? Vous leur enseignez de la pâtisserie ou vous étiez animateur? Qu'est-ce que vous faisiez?
J'étais animateur, c'était le plaisir. Hein, quand on travaille avec des enfants, on n'a pas l'objectif, il faut qu'ils apprennent et qu'ils soient des professionnels après. C'est bien sûr que ça arrivait avec quelques-uns, mais c'était plutôt le plaisir. Qu'est-ce que c'est d'être dans la cuisine avec sa maman et faire un gâteau? C'est super. Alors, si l'enfant, il arrive, il dit « Ah bah oui, j'ai fait comme ça. Tu vois, maman, c'est comme ça. » Bah, moi, je trouve que j'ai de la chance. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais tous les jours, je me lève et dis « C'est t'as de la chance. » Parce que je vends du plaisir. J'ai toujours vendu du plaisir.
C'est ce que disent les pâtissiers.
Bah oui, sans doute, ouais. Moi je le dis aussi.
Devant les plaisirs.
C'est clair, ouais, c'est sûr. Hein. Et donc, alors j'ai travaillé avec des enfants, j'ai travaillé avec des handicapés, j'ai travaillé en banlieue, je faisais des projets avec la partie sport, faire un grand gâteau en forme d'athlète, et les ados qui travaillaient avec moi, s'ils travaillaient bien, ils gagnaient des points pour partir en voyage, enfin plein de choses comme ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vécu la pâtisserie d'une manière un peu différente du truc classique. Tout ça, plus le fait d'avoir passé aussi une dizaine d'années à encadrer comme directeur de camp itinérant d'adolescents spécialement à cheval, ça m'a beaucoup aidé pour former mon équipe au Brésil.
Brésil après.
Ouais.
Parce que
c'est pas des enfants, mais c'est la gestion du personnel, quoi. Et ça, je sais que c'est vachement important et c'est un conseil à la limite que je donne souvent aux personnes qui veulent s'installer. Dit, premièrement, voyez que vous êtes dans un pays différent avec des règles différentes. Apprenez ça et apprenez à gérer le personnel, à le conquérir pour que ça se passe bien. Parce qu'autrement, vous aurez beaucoup de soucis, quoi.
Mais Pierre Marcolini. Le chocolatier belge travaille également à l'étranger puisque lui il travaille de la fève. Vous êtes chocolatier aussi, donc on en parlera.
Oui.
Donc Pierre Marcolini justement revenait dans l'émission Le Goût du Monde quand il est venu, qu'on l'a reçu, sur l'importance de la responsabilité de celui qui fait travailler, de celui avec lequel on travaille, au regard des personnes dans les pays dans lesquels on est implanté.
Ouais, bien sûr.
Et donc, je vous propose d'écouter un petit peu ce qu'il disait sur la responsabilité, justement.
Je me souviens de Joao Tavares, donc dans la région de Salvador de Bahia, donc la ville Eleu, qui est ce qu'on appelle la ville cacao. Deux générations de planteurs. Je prends ces fèves de cacao, je les travaille à lui. Donc elles sont pas mélangées dans une coopérative. Le problème c'est qu'elles sont mélangées avec A, B, C, D et on sait plus qui et quoi. Et ici ce sont ses fèves à lui. Et puis vous revenez, la première tablette que vous avez faite, vous lui donnez. Et il vous regarde et il vous dit c'est la première fois que je goûte mon propre chocolat. Et je comprends tellement, je comprends ce que c'est que comme fierté de faire un travail comme celui-là. Et de plus en plus il y a des initiatives où il y a des pays planteurs en se disant notre valeur ajoutée, ce que on peut garder, ce savoir-faire, et influer évidemment sur les plantations, sur la manière dont on va récolter, sur la manière dont on va fermenter. On est dans une responsabilité sociale. Comment est-ce qu'on peut imaginer de vendre une tablette entre 5 et 10 euros si en plus de ça on n'est pas équitable? C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis pas dans du 100% bio avec une étiquette. D'abord, quand vous demandez à des planteurs, ils vous regardent, est-ce que c'est du bio américain, canadien, japonais, parce qu'en plus de ça, il n'y a même pas de normes internationales qui en ont qu'une seule. La deuxième, effectivement, je pense qu'une société ne peut grandir que si elle s'affiche sur des valeurs.
Quels échos ça a, ces paroles chez vous, Daniel Daniel?
Bon, ça me touche beaucoup. Je ne le connais pas personnellement, mais à travers l'émission qui sera le plus grand pâtissier, j'ai écouté lui et ses collègues, et j'ai eu besoin de beaucoup de ça dans ma formation à moi, d'ailleurs, hein, même par rapport à cette émission. Donc, je comprends tout à fait. Moi, je suis complètement là-dedans. Alors, jusqu'à très peu de temps, je travaillais qu'avec le chocolat Caibo, qui une partie était achetée au Brésil et qu'elle est en Belgique et qui retournait là-bas.
Et qui revenait une fois après.
Et maintenant, c'est je dirais la moitié de chocolat qui est du Brésil. Alors, ils sont pas encore tout à fait au point commun par rapport à faire une couverture, c'est-à-dire pour tremper les chocolats, tout ça, mais pour les intérieurs, tout ça, c'est super. Et non, je comprends tout à fait. Et ce qu'il le dit, moi, je fais même aller un peu plus loin dans le sens où, dans mon propre travail à moi...
Dans celui de pâtissier et chocolatier.
Ouais, dans une pâtisserie chocolaterie. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut tout apprendre aux personnes parce que c'est pas leur référent, c'est pas leur culture. Mais quand on donne les moyens, on donne aussi l'envie d'avoir des initiatives, enfin de laisser l'espace pour l'initiative. On a affaire à des gens super, quoi, vraiment. Et moi, c'est ma fierté, ça. Je travaille avec une équipe depuis longtemps. Qui a pas envie de partir, que je respecte, que je paye bien, à laquelle je donne l'initiative.
Parce que ça se compte en années, parce que vous êtes installé en novembre 95, ouais, si j'ai bien retenu.
Ouais.
Donc ça, il y a certaines des personnes avec lesquelles vous travaillez qui sont là depuis le début quasiment.
Il y a une personne, c'est un gérant, donc c'est pas dans la production, mais qui est là depuis 20 ans, dont j'ai 23 ans de café, mais j'ai des cuisiniers pâtissiers qui sont là depuis 15 ans, 16 ans, 12 ans, 10 ans. Donc c'est, pour moi, je suis ici, ils sont en train de travailler, c'est super.
C'est justement parce que vous les avez bien formés, parce que ce travail s'est fait que vous pouvez...
Et vraiment, l'essentiel, c'est de... Il faut respecter les gens avec qui on travaille, parce qu'autrement, on n'a pas... Et nous, comme Français, avec ma sensibilité, je pense, c'est plus facile. Parce qu'au Brésil, les rapports de classe qu'il y a, beaucoup qui travaillent là-bas, c'est les gens pauvres, les plus riches, ils font travailler les autres, enfin ils ont des entreprises, des choses comme ça. Donc quand on va là-bas et qu'on commence à respecter ces personnes-là, d'ailleurs au début on passe pour un faible, parce que comment il se met à notre niveau entre guillemets, donc on va pouvoir le bouffer, etc. Et donc quand on passe cette étape, on arrive à des choses magnifiques, c'est bien. Pour vous donner une idée. C'est pas tout. Il y a une partie des gens au Brésil qui disent bon, je fais travailler les gens et puis au bout d'un an et demi, je vais le virer parce que après ça coûte trop cher. Ce qui est ridicule quoi dans une gestion d'une entreprise, je pense.
Y compris dans votre domaine, parce que dans votre domaine, c'est tout un apprentissage qui peut être un peu long. Est-ce que du coup, vous parcourez un petit peu le Brésil à l'affût de matières premières? Parce que vous parcouriez Brasilia au début, mais est-ce que vous avez continué? Est-ce que le vent vous porte toujours?
Oui. Je me promène, je découvre des goûts, tout ça, mais j'ai entre guillemets un problème par rapport à ça, c'est que mon café, qu'on en parle au début, café parisien tropical, ce que les gens viennent chercher,
c'est Paris.
C'est Paris, c'est la pistache, la framboise, le chocolat, enfin bref,
les
goûts, la vanille, etc. C'est les goûts bien français. Alors, je fais entre autres des macarons. Effectivement, dans les douzaines de macarons que je fais un macaron à la raticum et au coupoisseau.
Alors, raticum. J'ai regardé dans le dictionnaire parce que je ne connais évidemment pas. J'aimerais bien connaître tout. Alors, coupoisseau, c'est une espèce de fruit tout en longueur qui, dit le dictionnaire, a la saveur un petit peu du cacao qui a des fèves dedans avec un mucilage
également. C'est le même visuel en plus, que la fève de cacao.
Et on l'utilise de la même manière? Enfin, non, ça fait pas du cacao,
non,
mais ça donne un coup.
Non, on utilise vraiment que la pulpe, comme au départ la fève de cacao est utilisée, la pulpe de cacao qui fait une boisson un peu acide, tout ça, un peu super, qui est intéressante, sans sucre. Mais c'est de la même façon, c'est ça. Et donc...
Et le raticum, je ne l'ai pas trouvé.
Ah, raticum, en plus.
C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas trouvé.
Ça ne m'étonne pas, parce que c'est un fruit qui est du cerrado. Alors, cerrado, il y a 3 ou 4 biodiversités. L'Amazonie. Il y a le Mat-Atlantique, qui est au bord de la mer, avec une luxuriance différente, enfin, avec plein d'orchidées, etc. Et il y a le Cerrado. Le Cerrado, c'est tout le centre du Brésil, avec une biodiversité impressionnante, qui est en train d'être massacrée, mais un peu comme partout. Et qui a plein de choses pas évidentes. Moi, je sais que par exemple, la raticum, on m'a donné un défi dans pas un concours, mais enfin, un événement.
C'est
ça où j'ai participé. On dit, voilà, toi, t'as la raticum, fais-en quelque chose.
Monsieur fait des macarons, il faut le savoir. Alors, est-ce qu'on a eu un macaron à la raticum?
Oui, justement. Alors, donc, j'ai fait un macaron à la raticum. Mais la première chose que j'ai dû faire, c'est d'essayer d'adoucir ce goût très fort de la raticum.
Alors, c'est un fruit qui est comment déjà, qui se présente comment?
C'est un fruit, essayez d'imaginer un artichaut. Voilà, le visuel, c'est un peu ça. C'est pas des feuilles qu'on enlève, mais c'est un peu ça.
D'accord, comme une boule avec des feuilles.
Voilà, c'est ça.
Et le goût?
Donc, c'est ça. C'est fort. sincèrement, j'ai pas les mots pour décrire ça, quoi. C'est différent. Complètement. Et donc, j'ai fait un macaron avec ça. Et donc, j'ai une douzaine de sortes de macarons. J'en vends pas beaucoup, de ceux-là. Mais, quand je le vends, c'est les gens qui arrivent au café et qui disent, ah, mais ça me rappelle mon enfance. Ah ouais, j'en achète, j'aime bien, etc. Voilà. Donc, c'est, on nourrit la culture du pays, en fait, ouais, en faisant ça, quoi.
Ça fait un lien ouais, commun avec Et cependant, est-ce qu'une fois qu'on les a mangés, bien sûr, puisque vos macarons sont sans doute délicieux, mais est-ce qu'on revient ou alors on vient quand même pour le chocolat? Est-ce que ce qui plaît, ça reste la pâtisserie
française? Oui, de toute façon, non, ça reste. Hein. Ça, c'est des cas particuliers de gens qui ont envie de goûter, d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de Brésiliens qui me disent, mais c'est quoi la raticou? Ils ne savent pas non plus. Hein. Enfin, c'est normal.
Oui, c'est une découverte.
C'est pour
également.
Ça que vous avez eu du mal aussi.
C'est pour ça. Mais il va falloir m'inviter, cher Daniel. Il va falloir m'inviter au Brésil. Oui. Et Cécile Bonici aussi, la réalisatrice, qu'on vienne avec
D'accord,
vous.
Ouais.
Vous parliez de culture tout à l'heure, de culture, parce que le sucré, c'est pas une culture qui est partagée partout dans le monde. Est-ce que au Brésil, quand vous êtes arrivé, cette culture du sucré ou du gâteau individuel était déjà est-ce que c'est une culture que vous avez trouvée ou pas?
Non, non. Ce qui existe toujours, d'ailleurs. Bon, au Brésil, quand on mange du sucre, très peu, très 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 peu souvent. C'est très sucré en général. C'est des confitures, des gelées avec tous les fruits qui existent, hein, bien sûr. Mais le gâteau individuel, non, ça n'existait pas. C'était des parts de gâteau. Hein, c'est ça. Et donc, c'est vrai que ce que je faisais moi, c'était complètement différent et j'ai souffert entre guillemets beaucoup de ça au début. On venait acheter un gâteau chez moi, on dit, mais attendez, là, c'est tout petit et c'est aussi cher, c'est quoi ce truc?
C'est aussi cher qu'un gros gâteau.
C'est aussi cher qu'un gros gâteau, ça va pas être ça. Et en plus, ça c'est aussi une anecdote, quand j'ai commencé à me faire fournir, pour la pâtisserie, mes fournisseurs me disaient, mais attendez, là, vous achetez où le sucre, là? Parce que, à nous, vous achetez peu de sucre, quoi. Donc, c'était vraiment, ça c'est vraiment pour dire que c'était beaucoup sucré. Et c'est ce qui a fait notre succès, à nous, parce qu'on a fait un truc différent, qui a été apprécié par les Brésiliens qui voyageaient, hein, et donc, et puis on a ouvert un peu le goût, hein, de tout ça. Enfin, on a ouvert les papilles des gens, et maintenant, à Brasilia, il y a beaucoup de gens qui font autant des croissants que des pâtisseries, et un peu différente.
Oui, on crée un petit peu la demande.
Oui, on crée
aussi
des besoins. Oui, ça c'est clair. Hein.
Enfin, parce que les gens, quand ils découvrent après.
Bien sûr. Non,
c'est
toujours en revenant au croissant.
Mais oui, je reviens au croissant. Mais c'est une marade. Mais c'est un fil conducteur dans votre vie, le croissant.
Ouais,
il y a pire comme fil conducteur.
Oui, ça. J'en ai mangé juste un avant de venir, d'ailleurs, pour me rappeler. Et, non, c'est moi, je sais quand j'ai commencé, le dimanche, on vendait, je sais pas, une centaine de croissants. Dans ces eaux-là. Et maintenant, à Brasilia, moi j'en fais 1000 à peu près, hein, entre pain au chocolat et croissant, et à Brasilia, il y a une dizaine de pâtisseries ou boulangeries, plutôt boulangeries que pâtisseries, qui font des croissants de bonne qualité. Donc je pense qu'à Brasilia, on vend 10 000 croissants, en 20 ans, on a passé de 100 à 10 000. Quoi.
Incroyable.
C'est super, hein, ça ouais. Fait plaisir en plus.
Ça hein, fait plaisir. Ouais, ouais.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
70, après des mois et demi de délicieuses vacances, me voici dans le col parmi mes professeurs, mes camarades. Tous vomis de l'élève, les anciens sont presque tous revenus de se retrouver. Fotografia.
não vá pra perto da cidade. Aquela voz falava assim: não vá pra perto da cidade, ser prisioneiro feito passarinho.
Três irmãos, trois frères de Zeca Balero et Fagner.
Fagner.
Fagner, sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Un peu sur les routes, en voyage avec Daniel Briand, pâtissier, chocolatier et prix de liberté, qu'il a gagné en passant son CAP de pâtissier. C'est vous qui avez choisi cette chanson,
oui.
Daniel Briand, pourquoi ?
Alors, c'est vrai, bon, l'histoire est triste dans les paroles, mais la mélodie, ça c'est au Brésil, les mélodies. Alors, il y a de la sodage, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne se traduit pas, c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt positif, mais il y a quand même de la tristesse de temps en temps dans la sodage. Hein. Et comme le Brésil, c'est un pays très sensible, très humain, très, très chaleureux, très passionnel, ça fait partie. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la musique. Quoi. Elle est trop bonne, quoi. C'est trop beau.
Et quand vous écoutiez tout à l'heure Tombouctou, est-ce que vous avez redécouvert, justement, parce que vous vivez au Brésil, c'est un pays de musique, c'est un pays d'art, c'est un pays de saveurs. Est-ce que, justement, vous êtes replongé dans des morceaux? Est-ce que vous avez redécouvert? Est-ce que ça vous accompagne quand vous pâtissez, par exemple?
Non, je ne suis pas replongé dans la musique africaine. Encore aujourd'hui, c'est peut-être la musique que j'écoute encore plus que la musique brésilienne. Parce que c'est la musique du Mali en particulier, quoi. Parce que c'est, je sais pas, j'aime le rythme, j'aime. Bon, j'essaie d'aimer les bonnes musiques et ça en fait partie aussi. Simplement.
Excellent. On a parlé tout au long, bien sûr, du croissant, mais on va pas s'arrêter au croissant. On va parler de formation, on l'a évoqué, mais de transmission. Est-ce que c'est important? C'est une question qu'on pose fréquemment parce que dans vos métiers, ce sont des métiers qui ne s'arrêtent pas juste à une vie. Est-ce que la transmission, elle a quelle place dans votre vie?
Bon, ça va commencer à être le problème du moment, hein, parce que j'ai 67 ans et pour le moment, ça va super bien tout ça. Mais c'est vrai que j'ai envie d'abord que l'équipe qui travaille, qui est beaucoup plus jeune, puisse continuer à travailler. Je veux pas envie que l'entreprise s'arrête. Je sais que c'est pas évident de trouver un repreneur. Pourtant, c'est quelque chose qui rapporte bien, hein, quand on gère ça bien. Et au Brésil, c'est pas forcément évident. J'ai même envie, des fois, de dire, bah, je vais trouver quelqu'un en France qui a
le
métier.
Faire venir. Vous avez un associé, en tout cas,
français,
a depuis ouvert sa pâtisserie ou sa boulangerie.
Oui, alors j'ai deux exemples en fait. J'ai un pâtissier, un très bon pâtissier, qui est venu m'aider, que je connaissais d'ici, et qui, à un moment, a voulu ouvrir sa pâtisserie, et ça n'a pas marché. Et c'est un très bon pâtissier. Il a eu les yeux un peu trop grands, il a fait des moisissions. Parce que des fois, on peut être un super bon professionnel et pas un bon gestionnaire. Mais ça a été un peu son cas. Et autrement, j'ai eu un gérant français qui a passé 14 ans avec moi et qui lui a eu envie d'ouvrir sa pâtisserie, qui est venu en France faire un stage pendant un an de boulangerie et qui a ouvert, ça fait 2-3 ans, mais ça marche bien, il est dans le bon chemin, quoi. Et donc, par rapport à ces Brésiliens, j'ai pas envie que ça s'arrête. Je sais très bien ce qui va se passer si j'arrêtais du jour au lendemain. Ils ne trouveront pas des conditions, je parle pas seulement de salaire, mais c'est pas évident, hein, pour la plupart. Et j'ai pas envie de perdre ça, quoi. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose maintenant, quoi, de dire la succession. Alors, il y a très peu de temps, j'ai rencontré un pâtissier français étoilé qui est venu à Brasilia. Ça a été j'essaie de le contacter d'ailleurs, je sais pas si peut-être qu'il écoute. Sébastien Vauxion, il s'appelle, il travaille dans un palace, je sais pas où, et j'ai envie de passer par des gens comme ça qui ont l'esprit d'aventure, l'esprit d'ouverture comme ça, genre venir passer un an payer, travailler, et puis au bout d'un an, voir s'il y a moyen de commencer à avoir une rentrée dans l'entreprise, etc., etc. C'est un des chemins, quoi. Je suis préoccupé par ça parce que j'ai pas envie que ça s'arrête.
Et un Brésilien que vous formeriez justement, qui viendrait en France pour se former à la pâtisserie française.
Ouais.
Il y en a tellement aujourd'hui des chefs qui ont ce feu. Là, qui viennent de tous les pays du monde et qui viennent en France parce que la gastronomie française a ses lettres de noblesse et qui reviennent avec ce feu-là.
Oui, alors là, on rentre un petit peu dans un problème. Il y en a, bien sûr. Il y a des gens très, très doués au Brésil. Le problème de ça, c'est qui travaille actuellement comme ouvrier dans les entreprises, c'est les gens de la classe pauvre qui arrivent à avoir une qualité professionnelle très grande, limitée à l'endroit où ils travaillent, hein, bien sûr, malgré tout, mais qui n'ont pas forcément la culture et les moyens aussi de dire je peux passer, c'est vrai que moi je peux faire ça, mais les moyens de passer un an ou deux en formation ici. Ça, c'est le grand problème. Alors, qu'est-ce qui se passe au Brésil? Il y a des écoles privées où les gens rentrent dans ces écoles, pour apprendre la pâtisserie.
Donc, de gastronomie, de pâtisserie.
Oui, c'est ça. Mmh. Où ils payent un maximum. Et eux, on leur met un peu dans la tête, dans 2 ans, tu seras chef. Mmh. Alors, j'ai déjà employé des gens comme ça. C'est la catastrophe, en général. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi.
Comme tous ceux qui regardent des émissions de télévision, d'ailleurs, où on a l'impression que c'est finalement assez facile. Alors que ça demande énormément de travail, quand même.
Bien sûr, bien sûr. Oui, alors moi, c'est pour ça que j'en ai aimé qu'une dans tout ça, c'est qui sera le plus grand pâtissier, parce qu'on sent vraiment qu'on a affaire à des gens. Je les connais pas toutes, hein, je veux pas parler mal des autres. Non, c'est sûr, c'est le gros problème. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est que quelqu'un comme ça, qui a vraiment la fibre, il va venir là-bas, il va avoir les fonds, etc. J'espère, hein, je vous verrai tout, hein, bien sûr, mais c'est vrai que j'aimerais bien, je suis tellement bien là-bas que j'arrive pas à partir, mais.
Et puis il en ferme les yeux quand il en parle. Quand même. Ça veut vraiment dire qu'il n'a pas envie de partir.
Non, je gagne de l'argent à aller quand je veux et partir quand je veux. Je suis en vacances, ça fonctionne. C'est quoi
Et puis à travailler avec des gens aussi qui ont compris votre travail.
Ouais, non, bien sûr. Ouais,
il paraît que votre gâteau, le gâteau emblématique du café Tropicão, Daniel Briand, c'est lequel?
C'est l'opéra, le gâteau opéra, qui est la création de Gaston
Lenôtre.
Gaston
Lenôtre.
Alors, il est fait de quoi? De 4 couches de biscuits Joconde, 2 couches de crème au beurre café, et 2 couches de crème embrasée en deuxième truffe, mais ganache chocolat.
D'accord. Voilà. Ça doit vous titiller quand même, parce que ce Brésil, il a tellement de matières premières qu'on aime manger quand même.
Ouais.
Entre les fruits, le chocolat, le café, ça doit titiller quand même d'utiliser ces produits-là.
Ah bah oui, bien sûr, le café, le chocolat, c'est de là-bas.
Est-ce qu'on a compris, en fait, c'était un parti pris, vous êtes arrivé au Brésil, vous êtes dit, je vais faire de la pâtisserie française.
Ouais. Non, c'est vraiment un parti pris. Alors pour moi, je m'amuse, hein, bien sûr, hein, mais je fais quelques essais, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et les produits brésiliens, dans ce cas-là, ils sont pas trop utilisés. Il y a des essais, mais c'est bon, alors c'est impressionnant, parce que je suis à Brasilia depuis 20 ans, bon, ça paraît un peu orgueilleux, mais à Brasilia, je suis toujours devant pour le moment. Bon, parce qu'on essaie de bien travailler, on est constant. Quand je dis je vais quand je veux, je veux y aller 10 heures par jour. Donc
vous pouvez y être.
Ouais. Donc c'est un peu ça. Et puis c'est vrai que je suis dans une phase de ma vie aussi par rapport à tout ça où je suis, je fais des créations un peu, mais je suis plus préoccupé par la gestion d'entreprise, la gestion du personnel, le rapport avec les clients aussi. Que de dire faut que je suis créateur machin et tout ça, c'est pas trop mon chemin.
Faites une petite création là. Alors par exemple une des dernières que vous avez apprécié faire.
Ah, une création que j'ai fait, c'est je fais une bûche de Noël avec c'est une inspiration d'un gâteau du grand pâtissier français Pierre Hermé. Donc j'ai fait un gâteau avec une pâte sucrée genre pain polaise avec des morceaux de chocolat dedans, un biscuit sans farine, une crème brûlée à la vanille et une ganache au chocolat avec du sel dedans. Et des petites décorations en chocolat avec des croquants de sel aux fleurs de sel dedans. Voilà. Petite bûche de Noël.
Et l'opéra, c'est votre spécialité? La pâtisserie pour laquelle on se précipite chez vous, hormis le croissant.
Oui, à part les croissants. Ouais. C'est l'opéra, c'est la bourde à loup, la tarte aux poires, c'est le millefeuille, l'éclair, la tarte au citron, et bien des classiques, hein, tout ça, hein, le Royal Chocolat, des trucs qui paraissent simples comme ça, pas spécialement revisités, d'ailleurs, je reste vraiment dans le classique.
Y compris dans le salé, parce que vous faites également du salé.
Oui, alors ça c'est une part importante. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Brasilia, quand j'ai monté mon café, il est paru évident tout de suite que si je faisais du sucré, ça n'allait pas suffisant.
Oui, en termes de culture, et
d'habitude. Parce que j'avais un café, hein, c'était pas seulement une pâtisserie. Ce qu'on disait tout à l'heure, où le dessert, le sucré, c'est pas tellement important. On commence à leur donner envie de ça, j'ai l'impression.
Le sucré va supplanter le salé.
Donc, je suis parti sur les quiches, sur les vol-au-vent, sur les pâtés. On fait notre saumon fumé, on fait nos rillettes, on fait la pâte feuilletée, justement, les galettes sarrasin, toute une gamme de salés, des tartines, des croque-monsieur, croque-fort, j'en vois un maximum, par exemple.
Ça, c'est un grand classique, quoi, le croque-monsieur.
Et alors, je pense, hein, en portugais on est suspect quand on se dit du bien de soi, mais je pense que le croque-monsieur, bon, je fais mon pain de mie, je fais ma béchamel, le fromage, le jambon, c'est le meilleur que j'ai trouvé à Brasilia, j'utilise, etc., qui est un hollandais. Donc je fais un produit simple, mais top.
Voilà. Terriblement bon.
J'ai pas la prétention d'inventer, mais et c'est très pratique en travaillant avec les personnes que je travaille pour. Ils ont leurs références et ils font les choses bien comme ça. Voilà.
Alors c'est une tradition dans le goût du monde. On aime bien demander à nos invités quel est leur ingrédient préféré et leur ustensile préféré. D'accord. Parce qu'en cuisine, c'est majeur un ustensile.
Oui, bien sûr.
Daniel Briand.
Bon, alors, l'ingrédient préféré, la vanille. Il n'y a pas photo.
Elle a la cote, cette vanille.
Ouais, mais non, mais ça ne m'étonne pas. Et il ne faudrait pas dire ça trop parce qu'elle augmente beaucoup trop actuellement. C'est terrible. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Et alors, non seulement c'est mon ingrédient préféré, j'ai toujours utilisé, que j'ai toujours emmené dans mes valises d'ici parce que stupidement au Brésil il y en a pas, mais alors ça va changer aussi et ça je bataille beaucoup derrière ça aussi
pour qu'il y ait une filière
ouais,
de vanille,
pour qu'on la produise là-bas. Il existe une vanille sauvage là-bas mange et les singes parce qu'elle est pas protégée, etc. Mais c'est vrai que c'est tout un travail qui commence à se faire et où la vanille montrer l'utilité de la vanille encore il y a 2-3 ans et même peut-être encore maintenant pour les gens, la vanille c'est le goût de crème on dit et donc c'est des trucs artificiels dégueulasses et tout ça et on est très peu à utiliser la vraie vanille, hein. Donc ça c'est...
Et du coup elle pousse où cette vanille?
Eh ben, où est-ce qu'on la retrouve? Dans le Cerrado, dans le Mata-Atlantique aussi, comme on disait. Mais elle est pas contrôlée. Alors il y a un grand chef brésilien qui s'appelle Alex Attal, qui était le 2e ou 3e restaurant du monde à un moment et tout ça, qui a une association qui travaille aussi là-dessus et tout ça pour protéger, pour organiser. Au Brésil c'est ça le problème, c'est très grand. Il y a énormément de choses de bon, mais un truc qui vient d'Amazonie, un truc qui vient du fin fond du Acre, de Rondônia, tout ça, et ça arrive pas, quoi. Ça, il y a pas de connexion, c'est pas organisé.
Mais ça vient, hein. Mais ça vient.
C'est impressionnant. En 20 ans, il y a plein de choses qui ont bougé positives, hein, au Brésil. Tout ça, on sent que ça vient. Et ça fait plaisir à un pays où on voit les évolutions comme ça aussi. Ça, c'est un autre point intéressant. Une évolution, pas en mettant de la suite, mais l'évolution politique actuelle, c'est un peu triste. C'est même très triste, je dirais. Mais autrement, dans l'organisation, l'appréciation des choses. Moi, il y a 20 ans, à Brasilia, j'avais du mal à trouver de la crème fraîche totale, c'était un mélange. Le beurre non salé, ça n'existait pas. Enfin, tout ça, quoi, c'est des trucs simples. Alors, le chocolat, n'en parlons pas, enfin, c'était tout comme ça. Et maintenant, il y a tout. Le vin qu'on vendait à l'époque, le vin français qu'on pouvait acheter pour vendre dans mon restaurant, ça s'appelait le Libro-Schmiff, je parle très mal, c'est un vin allemand, blanc, sucré, la bouteille bleue, tout ce qu'on aime, quoi.
Et ça a bien changé. Alors, votre ustensile, maintenant?
Alors, le fouet.
Le hein? fouet, ah, si pardon, au revoir, Daniel Briand, très bonne journée à vous.
Le fouet, parce qu'on
monte la chantilly, parce qu'on monte les œufs, parce que...
Non, puis j'ai une image aussi, parce qu'on a commencé un projet d'un livre qui est pour le moment est un peu qui est pas encore fait, où moi et mon épouse, on est dos à dos, moi je suis avec mon fouet et mon épouse avec son appareil photo. Ça fait partie du projet. Et puis bon, le fouet c'est le côté manuel, hein, on fait ça beaucoup avec les mains, la façon dont on utilise le fouet, ça monte bien ou ça monte pas bien, enfin, et ouais, c'est un ingrédient de base, quoi. Alors il y a plusieurs types de fouets, il y a le fouet pour les crèmes plus dures, il y a le fouet pour les blancs qui a des fils plus fins, enfin tout ça.
Bon, je ne regrette pas de vous quitter, Daniel Briand. Non, je plaisante. Le goût du monde se referme. Merci beaucoup, Daniel Briand, d'avoir été avec nous. Merci de cette escale. Est-ce que vous repartez,
hein? Ouais, bah, demain matin, oui.
Voilà. Bon retour à Brasilia. Je vous laisse donner l'adresse de votre pâtisserie, de votre café, s'il vous plaît.
Donc, c'est Daniel Briand. Alors, c'est mon épouse qui avait voulu faire ce nom-là, parce que ça fait très français, je pense que oui, hein. C'est, alors, 104 Nord, le Bloco A, Loja 26, Brasilia, DF, District Fédéral.
De toute manière, elle sera écrite en toutes lettres sur le site internet du Goût du Monde, sur RFI.fr. Racontez-nous un petit peu bien ce que le parcours de notre invité pâtissier Daniel Briand vous a inspiré, y compris s'il s'agit d'une recette à partager sur les réseaux sociaux ou sur la page du Goût du Monde sur RFI.fr. Merci beaucoup à Cécile Bonici qui a réalisé et mis en onde cette émission. On se retrouve samedi prochain, ça vous va? Prenez soin de vous d'ici là. Tout de suite, le journal sur RFI. Mijoter rien que pour vous, cette émission était une rediffusion.